1000 milliards pour le climat. Pierre Laroutourou, ingénieur agronome, porte-parole du pacte finance climat, co-auteur avec Anne Hezel et Jean Souzel du livre Planète, climat, réveillez-vous.
Bonjour, désolé pour le retard, allez m'excuser. Bonjour, très bon. Donc je suis Pierre Laroutourou, un des porte-parole du pacte climat. Désolé, on était à une réunion sur les questions de stratégie, comment faire bouger les choses. C'était un peu plus long que prévu. Donc je vous propose un atelier en deux temps. Est-ce qu'il y a des questions de compréhension sur le contenu de notre initiative? Et après ça, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble à comment est-ce qu'on peut débloquer la situation. Je pense qu'on est très nombreux à sentir qu'il y a une fenêtre là avec ce qui se passe, avec le fait que les feux de forêt, on a vu dans tous les journaux, enfin, que la question du climat monte. Plus en plus la démission de Nicolas Hulot, c'est que les politiques sont en faute s'ils ne bougent pas. Donc j'aimerais qu'on fasse un peu de brainstorming sur comment on peut accélérer. On a déjà des choses sur le feu, hein, mais j'aimerais qu'on réfléchisse à comment on peut accélérer. Est-ce que ça vous va comme ordre du jour? On aborde des questions de compréhension. Et bon, si on milite, il faut... Oui.
Est-ce que je peux me permettre juste d'intervenir?
Bienvenue.
Après, on est tranquille. Donc je fais partie d'Alternatiba. Juste, je vais compter le nombre de personnes. Et on a un couple, en fait, c'est une petite quête, comme tout est gratuit, les conférences et plusieurs choses. Donc en fait, c'est pour participer financièrement aux frais voilà, qu'il y a pour un internet, différentes choses. Voilà, si vous avez quelques petits euros, ça sera très bien.
Bien sûr.
Merci.
Merci. Ça, c'est un micro qui est... Donc on commence, je ne sais pas ce que... On est trop nombreux pour se présenter, parce que sinon tout le temps va être bouffé dans la présentation. Donc il y en a peut-être qui étaient déjà là ce matin. Donc voilà, je suis à l'écoute, d'abord donc, de toutes les questions sur le fond. Et après ça, réflexion sur la stratégie. Vas-y, attends, je cherche, sinon c'est là qu'on voit qu'on a besoin d'énergie quand même.
Là, il y a une prise derrière.
Ok, merci. Ceux et celles qui parlent peuvent dire juste leur prénom et la ville d'où ils viennent.
Christiane, voilà, j'étais à la conférence sur l'effondrement. Ensuite, j'étais à la conférence de ce matin, du début de l'après-midi, pardon, avec la vôtre, avec la voilà. Et donc, déjà, ça donne de l'espoir. Par contre, moi, je suis revenue, c'est qu'il y a... Voilà, j'ai lu l'essai de Bruno Latour, « Où atterrir ?», si vous l'avez, dont auquel il avait fait référence. Et en fait, ce que je me demande, c'est que j'en ai plein. C'est vrai qu'il y a une fenêtre, on a envie de faire des choses, on a de l'espoir. Hein, si on est là, c'est qu'on a de l'espoir. Par contre, bêtement, la lutte climatique est-elle compatible avec le capitalisme? Et est-ce qu'on s'imagine qu'on va nous laisser faire notre petite sauce? Et quand est-ce qu'on va, merci, qu'on va avoir des problèmes? Et ne faudra-t-il pas s'opposer? Est-ce qu'il ne va pas y avoir un moment? Là, on parle... voilà. Ouais, je me demande, c'est pas possible que les intérêts. J'ai adoré le bouquin de Latour parce qu'il explique que depuis 50 ans, moi je suis une vieille 68 tarde, j'ai vu Kelter, le club de Rome, 72, Kelter laisseront-nous à nos enfants. On sait maintenant que les amis, que ça faisait, que les gens au pouvoir le savaient et qu'ils ont fait le deuil. Des problèmes climatiques qui sont connus par nos élites dirigeantes depuis des dizaines d'années, et ils ont fait le choix d'abandonner l'humanité, je dirais. Voilà. Donc, voilà.
Je te mets un peu de lumière, même si ça consomme de l'énergie. Non, bon, c'est pas grave. Ok, on prend deux ou trois questions. Merci. Vas-y.
Pour moi, c'était moins un peu plus pratique sur le pacte de finance climat. Concernant Nolan de Caen. Moi, c'est plutôt pratique, c'est-à-dire, j'ai compris le fait que ce soit 1 000 milliards de la Banque Centrale Européenne qui, au lieu qu'elle aille, que ce soit pour financer les banques privées, c'est pour financer les banques qui vont ensuite être mobilisées vers les États. Mais du coup, quelle est la difficulté pour vous qui est-ce qu'il faut convaincre c'est ça que j'ai pas trop compris. Et à notre niveau, à mon niveau, moi je suis jeune diplômé, comment je pourrais m'investir s'il y a besoin pour aider, enfin, quels sont les types d'aides que vous donnez. J'ai vu que demain soir, il y avait un collectif jeune, je crois, à Paris.
Ouais, enfin, sans doute. Ils sont autonomes, donc ils s'organisent. C'est souvent que le QG est envahi par des groupes de travail d'étudiants, donc c'est plutôt bon signe. Est-ce que je réponds à ces deux premières questions? Vous entendez correctement au fond? Ouais. Sur la première question, est-ce que le capitalisme est compatible avec l'écologie? Est-ce que le capitalisme est un humanisme? La réponse est non. Et voilà, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est que ce système provoque des dégâts sociaux, écologiques, des inégalités, des frustrations personnelles. On peut passer à côté de sa vie en étant obnubilé par le fric. Donc il n'y a aucun doute qu'il faut le changer radicalement. La question est de savoir, vu l'urgence qu'on a sur la question du climat, quand tu sors de chez Jean-Joseph, tu dors plus pendant 3 jours, franchement, ou quand tu vois Gilles Boeuf sur les questions de biodiversité, tu as du mal à dormir. Donc vu l'urgence, est-ce qu'on attend d'être en situation de tout changer? C'est aussi ce que dit Aurélien Barraud le jour sur France Culture. Il dit on peut rêver d'un grand soir et qu'on va tout changer, mais aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas besoin d'avoir d'une victoire sur des trucs importants qui déjà changeraient les choses? Donc moi, je pense, à titre perso, qu'il faut tordre le système par étapes, mais que dès qu'on a une occasion, dès qu'on a une fenêtre pour changer quelque chose, et de façon assez radicale, et que ça réoriente le système et que ça réponde y compris à la crise culturelle, à la crise anthropologique, il faut plutôt le prendre. Et donc je pense que politiquement c'est très compliqué aujourd'hui. Alors certains et certaines peuvent militer dans des partis politiques, ça a été mon cas. Voilà, on peut avoir une... Je pense qu'il faut avoir une stratégie en tenaille, ce que dit Philippe Lambert, par exemple, qui est un copain, qui est le chef de tous les députés écolos au Parlement européen. Philippe dit qu'il faut une stratégie en tenaille, en même temps aller convaincre des dirigeants pour aller faire bouger, passer une urgence, et en même temps développer une stratégie de plus long terme qui pourrait amener à une prise du pouvoir. C'est le débat qu'on vient d'avoir avec Éric Piolle. Éric Piolle se dit comment est-ce qu'on se donne les moyens de prendre le pouvoir dans 10 ou 15 ans, et d'autres, des ONG, disaient, non, et je faisais partie, disaient, mais oui, est-ce que, ok, mais est-ce qu'il y a, parce qu'il faut un changement complet, mais il n'y a quand même pas des urgences. C'est pas dans, si on veut sauver le climat, si on veut sauver la biodiversité, ce n'est pas dans 15 ans. Peut-être qu'il faut se donner les moyens et d'avoir déjà des victoires. Ce que dit Tchétché Tchéveri, qui est un des fondateurs d'Alternativa, c'est que le camp progressiste est quand même très très divisé en ce moment, et en gros va de défaite en défaite, et peut-être que là, sur la question du climat, sur la question d'une banque pour le climat, sur la question d'un budget climat au niveau européen, peut-être que la question du climat est tellement grave qu'on peut rassembler très largement, y compris des gens qui ne sont pas d'accord avec nous sur d'autres sujets. Quand Laurence Parisot m'appelle pour dire « Vous m'avez jamais convaincu sur les questions sociales », peut-être qu'il y en a qui ne me connaissent pas du tout, ça fait 20 ans que je milite pour la semaine de 4 jours, en expliquant qu'avec les robots et les ordinateurs, on produit beaucoup plus de richesses avec moins de travail. Donc, je fais partie des gens qui avaient lancé le débat sur une réduction forte du temps de travail, en montrant qu'on peut passer à 4 jours sans baisse de salaire si l'entreprise arrête de payer les cotisations chômage. Voilà. Donc Laurence Parisot m'appelle pour dire « Vous m'avez jamais... » Laurence Parisot, ancienne patronne du MEDEF, me dit « Vous m'avez jamais convaincu là-dessus, mais sur le climat, j'ai lu le bouquin que vous avez fait avec Joseph, j'ai envie de vous aider. » Donc je réponds, ok, mais tant mieux, parce que pendant un an, quand je suis en France, je m'interdis de reparler du temps de travail. Quand je suis en Belgique ou quand les syndicats espagnols m'invitent, je parle du temps de travail. Mais en France, non mais je suis là, j'ai envie qu'on gagne. Voilà, j'ai envie qu'on gagne. Et donc quand on me dit que Pascal Lamy a signé, il me faut 30 secondes pour savoir si c'est... Non mais, quand Pascal Lamy était le chef de... Non mais, on se parle franchement, voilà, on n'a jamais pensé envoyer ni à Pascal Lamy ni à Jean-Marc Ayrault. Je peux vous dire que Tchet, on a fait une grande journée à l'UNESCO le 15 mars, et Tchetch m'a dit qu'il ne pensait pas applaudir un jour Jean-Marc Ayrault, parce qu'à Notre-Dame-des-Landes, on n'était pas du même côté avec Jean-Marc Ayrault. Mais si Jean-Marc Ayrault, aujourd'hui, comprend que la question du climat est fondamentale et qu'il veut nous aider, eh bien c'est utile, parce que demain, je suis avec des députés allemands, et que les socialistes allemands, les copains de Jean-Marc Ayrault, le ministre des Affaires étrangères allemand, c'est un copain de Jean-Marc Ayrault. Donc le fait d'avoir Pascal Lamy et Jean-Marc Ayrault, il y a des gens ici à qui ça donne des boutons, mais moi je me dis que, non mais si on veut gagner, le principe de la démocratie, c'est est-ce qu'on veut avoir 51% des gens? Hier, j'étais à Mouans-Sartou. Il y a une amie qui fait des choses magnifiques sur la question du climat depuis 30 ans à Mouans-Sartou. Et quand elle a appris que Christian Estrosi, le maire de Nice, nous fait venir avec Jean Jouzel dans 3 semaines et que les 49 communes de la communauté de la métropole m'ont signé, putain, elle s'est dit, mais c'est pas possible. Estrosi, il y a encore 10 ans, il ricanait. Il se foutait des écolos en expliquant que c'était que des barbes. Voilà. Et maintenant, tout d'un coup, Estrosi demande à Jouzel et la Routourou de venir pour faire la photo en disant qu'ils signent. Donc je comprends. Non mais je comprends qu'elle trouve ça un peu pénible. Voilà. Mais en même temps, je répète, si on veut gagner la bataille, si on se dit que réellement sur la question du climat et de la biodiversité, on n'a que quelques années pour agir. Moi, je pense que ça vaut le coup d'oublier qu'on n'est pas d'accord avec Pascal Amy sur certains sujets pourtant fondamentaux, qu'on n'est pas d'accord avec Laurence. Et on le dit, on n'est pas d'accord avec Laurence Parisot sur des questions fondamentales. Mais si elle pense qu'il faut qu'au niveau européen, il y a besoin de changer de braquet et qu'il faut créer une banque du climat et qu'il faut un impôt de 5% sur les bénéfices pour trouver un budget de 100 milliards, je reviens de deux jours à Bamako il y a 2 semaines, mais ça changerait tout si on avait un budget de 100 milliards pour avoir un vrai plan Marshall pour l'Afrique. Et donc, pour gagner, comme le camp progressiste est quand même très divisé, ceux qui croient uniquement à une stratégie électorale, moi je n'y crois pas. Je pense que le camp progressiste, y compris aux élections, est très très divisé. Voilà. Et donc je pense que rassembler des gens très différents sur un truc et qui fait levier. Je ne sais pas qui disait donnez-moi un point d'appui, donnez-moi un levier et je changerai la cour des planètes. Et là, l'air de rien, au nom du climat, qui en tant que tel est un sujet fondamental, on pose la question du contrôle démocratique de la monnaie. Quand le journal Ouest France, ceux qui me suivent sur Twitter, vous pouvez regarder, quand le journal Ouest France met à la une 1000 milliards, c'est possible, il explique que l'argent de la BCE peut aller ailleurs, c'est quand même le journal le plus lu de France. Quand Ouest France met la courbe sur le dumping fiscal européen et explique qu'il faut faire un impôt fédéral sur les bénéfices, ben je trouve qu'on fait aussi de l'éducation politique, de l'éducation, on essaye de gagner la bataille culturelle. Donc voilà pourquoi, pour la question est-ce qu'il faut... Est-ce que le capitalisme est un humanisme ou nous permet de protéger ? Non, il faut un changement global, radical. Mais je pense que vu la situation, vu les mentalités telles qu'elles sont, vu les conneries qu'on a mis dans la tête des gens, la résignation, c'est bien si on arrive à avoir une victoire. Et je pense que parce que Merkel et Macron sont très fragiles, parce que sur l'Europe, ils ont conscience que l'Europe peut se disloquer, qu'il faut un projet. Parmi les gens qui nous soutiennent à l'Assemblée nationale, on a des gens de tous les partis politiques, mais y compris au sein de En Marche, il y en a qui pensent que, pour des raisons de fond, c'est un bon projet et que ça permettrait à Merkel et Macron de montrer qu'ils sont capables d'écouter les peuples pour pas que le vote populiste d'extrême droite entre. Voilà donc notre stratégie. Et je répète, après ça, nous, si on est ici aujourd'hui, c'est parce qu'on pense à tous les jours quand on fait un débat, on finit par la photo du mur de Berlin, parce que c'est Stéphane Hessel, sur le fait qu'en même temps, il faut, je vais raconter ce matin l'histoire de la stratégie du dentifrice. Si on veut que le dentifrice sorte, il faut débloquer le bouchon, parce que si le bouchon est complètement bloqué, ça ne sert à rien, mais il faut en même temps une pression très forte. Le mur de Berlin, il ne serait pas tombé s'il n'y avait pas eu des milliers et puis des centaines de milliers de citoyens qui s'étaient mis en mouvement. Donc c'est pour ça qu'on pense qu'il faut, quand Stéphane Hessel disait provoquer une insurrection des consciences, on est en train de se demander comment est-ce qu'on fait pour effectivement que des gens très très nombreux se mettent en mouvement dans les mois qui viennent. Qui convaincre ? Donc, on a, je répète, une stratégie en tenaille double, c'est en même temps convaincre les dirigeants que ce n'est pas de la folie, que c'est sérieux, que quand le mur de Berlin est tombé en 89, il a suffi de 6 mois à Mitterrand et à Kohl pour faire une banque pour financer la transition. À l'époque, ce n'était pas la transition écologique, c'était la Pologne, c'était la Slovaquie. Enfin bon, mais donc en 6 mois, ils ont été capables de créer un outil pour financer la transition. Donc il faut en même temps, un ami en a parlé à Merkel, enfin un ami qui est l'ancien patron de du climat, la Commission européenne en a parlé à Merkel début juillet, on est déjà allé à l'Elysée. Pedro Sanchez, parmi les bonnes nouvelles, il y a le fait que le nouveau Premier ministre espagnol et sa ministre de l'Environnement, Teresa Rivera, sont convaincus depuis le début. Donc Pedro Sanchez réfléchit à une initiative européenne pour mettre les dirigeants face à leurs responsabilités en disant « c'est possible, Madame Merkel, Monsieur Macron, Monsieur Rutte, qu'est-ce que vous attendez ? Dites-nous pourquoi vous n'êtes pas d'accord ?» Donc en même temps, il y a une équipe qui fait du plaidoyer, comme dans toutes les associations, il y a une équipe qui va rencontrer les députés en parlant plus lentement, en faisant un peu sérieux. Donc on va rencontrer les députés, on va rencontrer les dirigeants dans plusieurs pays. Et en même temps, il faut qu'un maximum de citoyens s'impliquent. Nous, on voudrait qu'un maximum d'associations, ce que je disais ce matin, c'est y compris par exemple, en France, les parents d'élèves. Il y a des gens qui sont responsables des parents d'élèves dans leur école qui disent ben, « c'est très bien d'être parent d'élèves, mais ça ne concerne pas juste les rythmes scolaires et ce qu'on mange à la cantine ». On va laisser à nos gosses une société invivable, donc ce serait bien que les parents d'élèves s'impliquent aussi dans le débat sur le climat. Donc, quelles sont nos cibles ? Nos cibles, puisqu'on veut un traité européen, il n'y a pas de traité qui est possible s'il n'y a pas au moins 12 chefs d'État, peut-être qu'on n'aura pas les 26 ou les 27, hein, mais pour que ce soit possible juridiquement, il faut qu'il y ait au moins 12 chefs d'État qui disent « Ok, on est d'accord pour créer une banque du climat, ok, on est d'accord pour faire un impôt sur les bénéfices, pour avoir un budget de... » Et même s'il n'y a que 12 pays, on arrive à 100 milliards chaque année. Donc nos cibles ultimes, c'est Merkel, Macron, Sanchez, Rutte et quelques autres. Mais ça passe par le fait qu'un maximum de gens, que des leaders d'opinion, que des journalistes en parlent, que des députés. Là, on a un groupe à Bordeaux. Toi, tu dis que tu es à Caen. Il y a un groupe qui est en train de se créer à Caen. On a un groupe de Bordeaux qui est super actif et qui fait, en gros, toutes les semaines, qu'il y a un parlementaire. Ils attaquent tous les députés, tous les sénateurs. Ils demandent rendez-vous de toutes les couleurs politiques. Tous les députés et tous les sénateurs de Gironde, ils décrochent le coup de fil. Ils demandent un rendez-vous. Ils vont avec l'argumentaire. Et toutes les semaines, ils nous trouvent des signatures différentes. Il y a déjà 47 départements où il y a des citoyens qui sont... Donc, vous avez le petit dépliant, vous l'avez vu. Donc, on a créé une association dont le seul objectif est d'obtenir ce traité sur le climat. Il y a déjà 47 départements où des gens se retrouvent. Alors, les modes d'action sont différents. Les étudiants font des vidéos. Là, je dis, on a un petit QG, on a 4 pièces près de la Bastille à Paris. Donc, il y a souvent des réunions d'étudiants et d'étudiantes qui se forment pour être porte-parole avant la tournée des universités, en disant qu'il y a juste 3 ou 4 porte-parole, on n'y arrivera pas. Il y en a qui font des vidéos. J'ai vu des dessins animés super intéressants. Et voilà, il y en a qui veulent faire des micro-trottoirs. Donc, en gros, chaque groupe local a sa liberté d'action. Nos cibles, c'est quand même bien... Les leaders d'opinion, les chefs d'État, les parlementaires, voilà. Et puis, les groupes locaux font passer des articles dans la presse, dans l'Ouest-France, dans le Sud-Ouest, dans les dernières Nouvelles d'Alsace, dans le Nice Matin. À chaque fois qu'il y a un événement climatique extrême, c'est l'occasion de rappeler qu'il y a des solutions. Et puis, alors, ce que j'ai oublié aussi, c'est qu'il y a des villes qui adoptent des vœux, par ce que font nos groupes locaux, c'est aussi d'aller voir des mairies. Avant-hier, c'est la mairie de Lille qui a adopté à l'unanimité, le conseil municipal a voté son soutien au pacte climat. Il y a 2 élus Sarkozy qui ont préféré ne pas participer au vote, mais ils n'ont pas voté contre. Mais donc on peut dire que la ville de Lille, après la ville de Lorient, après la ville de Lanester, après des villages, on a les maires ruraux de France qui s'engagent avec nous. Donc le but est aussi que ça remonte, que ça diffuse dans tous les réseaux. On va être invité devant tous les maires de France, au congrès des maires. Tout ça, je vous donne ces exemples pour dire que c'est Tartampion, un inconnu ou une inconnue qui nous a branché sur un ami qui nous a présenté à François Baroin. Et au bout d'une heure, François Baroin nous invite devant 15 000 maires. En novembre, on sera en plénière devant 15 000 maires. Un autre en a parlé avec les parents d'élèves de l'FCPE, un autre ou une autre avec la PEP, un autre avec une association qui travaille plutôt sur les questions de santé, un autre avec le syndicat des hospitaliers. Voilà. Donc notre objectif, c'est que chacun et chacune se dise « je suis acteur, je ne suis pas juste là à ruminer mon inquiétude et le soir j'ai du mal à dormir tellement je suis flippé par la situation ». Chacun de nous se dit « vous allez sur le site ». Vous trouvez le PowerPoint, tout ça est gratuit, disponible. Vous trouvez déjà quelques vidéos. Et puis, chaque groupe local, chaque citoyen peut faire d'autres éléments pédagogiques. Oui ?
Mathieu Noyel, concernant les finances qu'on récupérera suite à ces actions, à quoi serviront-elles sur le plan, par exemple, les écologistes, certains vont être pro-nucléaires puisque ne dégageant pas de CO2, on est peut-être plus efficace actuellement pour lutter justement contre le réchauffement climatique. Donc par rapport au nucléaire, quelle est votre position et est-ce que sur le climat, finalement, ce n'est pas le plus efficace actuellement? Sur le plan de la biodiversité, est-ce que finalement, s'il faisait plus chaud, ce serait moins bien? Parce que par le passé, il a fait par moments beaucoup plus chaud, avec une biodiversité qui était nettement supérieure à celle qu'elle est actuellement. Donc, est-ce que l'impact d'une température un peu supérieure est réellement négatif sur la biodiversité? Et finalement, est-ce que l'impact d'un réchauffement ne serait pas uniquement sur l'homme? Et auquel cas, finalement, la première question d'un écologiste, est-ce que ce ne serait pas de réduire finalement l'impact de l'homme sur la planète et donc de se poser la question de la démographie?
Alors, sur la question du nucléaire, je crois où va aller l'argent si on obtient le traité européen qu'on veut. Donc, je rappelle qu'il y a 2 éléments fondamentaux dans le traité qu'on demande. C'est que l'argent de la BCE, quand la Banque centrale crée des centaines de milliards, plus de 3 000 milliards au total, et ça va un peu n'importe où, mais essentiellement à la spéculation, on veut que 100% de la création monétaire aille vers le bien commun, ce qui, à nos yeux, le climat, la biodiversité et les créations d'emplois. Donc, c'est pour ça qu'on crée une banque du climat. Symboliquement, on ne touche pas la BCE, parce qu'il y a des pays où quand même toucher à la BCE, ce serait trop demandé, mais on crée une banque du climat qui a le statut de banque, qui est une filiale à 100% de la BUI, et qui peut faire la création monétaire, même si, je ne veux pas être trop technique, mais même si la BCE s'arrêtait, ce qui est assez probable, arrêter d'augmenter sa base monétaire, la création, elle a quand même 3 000 milliards qui sont affectés, et la banque du climat a une capacité de création, donc maintenant, y compris le chef de la BUI à Bruxelles, qui nous a fait cette semaine encore une note pour dire que tout ce qu'on disait était sérieux, tout à fait faisable, et qu'on peut le faire en 6 mois ou 9 mois. Oui, et le deuxième aspect, donc c'est un budget climat, c'est l'argent qu'on peut consommer, comme il y a un budget pour l'éducation, il y a un budget pour la santé. Quand on a fait l'école pour tous, on n'a pas dit qu'il y aurait des prêts à taux zéro pour les parents, on leur a dit que l'école était gratuite. Donc on veut qu'il y ait une mixité de financement, des prêts à taux zéro et du budget qu'on peut consommer sans retour comptable. Où va l'argent? On dit que c'est l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Donc ça veut dire investissement massif dans tout ce qui est bâtiment, les logements, les bâtiments publics et privés. Il faut que 100% de tous les bâtiments soient isolés dans 20-25 ans, en commençant par les plus précaires. C'est des investissements massifs dans les transports en commun, parce qu'on pense que dans le même traité, il faut dire que le prix du carbone va augmenter, mais qu'aujourd'hui, quelqu'un ou quelqu'une qui n'a pas le choix, quelqu'un qui habite à 30 km de son boulot, oui, dans une zone où il n'y a pas de transport en commun, si on se contente de dire qu'on augmente le prix du carbone, ben ces gens-là vont gueuler parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de transport en commun dans la région, donc on va juste augmenter leurs dépenses sans leur donner d'alternative. Donc, où va l'argent? C'est sur l'efficacité énergétique, le bâti, les transports, c'est sur l'agriculture, aider l'agriculture à changer de modèle. Désolé pour les répétitions pour ceux et celles qui étaient là ce matin. Il y a 3 semaines, ce qui est encore une preuve que ça bouge, j'ai été invité par le mouvement des jeunes agriculteurs, la branche jeune de la FNSEA, et qui eux-mêmes disaient qu'il y a 10 ans, ils ne nous auraient pas invités. Le gars qui lançait le débat disait, même il y a 15 ans, il y a eu une canicule, on s'en foutait tous, on pensait que des canicules, il y en a toujours eu, et que Claude Allègre avait raison, les écolos nous cassent les pieds. Et il dit maintenant, 15 ans plus tard, en 2018, il n'y a plus aucun climato-sceptique chez les paysans. Aucun climato-sceptique. Il dit, il y a 2 ans, les inondations ont fait que la récolte de blé a perdu plus de 30%. Cette année, dans tout l'est de la France, les paysans donnent du foin à leurs bêtes à partir du mois d'août. En principe, le foin, on le donne quand il n'y a plus d'herbe verte dans les prairies. C'est à partir du mois de novembre. Tandis que là, ils ont commencé au mois d'août, tellement les pelouses étaient complètement desséchées. Donc, ça veut dire qu'en février, ils vont abattre la moitié des troupeaux. Donc, il dit, maintenant, il n'y a plus aucun climato-sceptique. La question est de savoir comment est-ce qu'on nous aide, au lieu de nous engueuler en tant qu'on est tous responsables, est-ce qu'on nous aide pour transformer notre système? Il disait, par exemple, quand on est éleveur, effectivement, avec le lisier, avec le purin, voilà, on va avoir une double peine, on va salir la nappe phréatique et faire du méthane. Donc, on le sait bien. Mais quand on nous dit qu'il faut faire du biogaz, l'investissement pour une unité de biogaz, c'est 500 000 euros. En gros, c'est 500 000 euros. Sachant que la plupart des paysans n'arrivent même pas à se payer le SMIC chaque mois, demander aux paysans de mettre 500 000 euros d'investissement sans être sûr d'avoir un débouché, il dit que c'est de la folie. Par contre, s'il y a un traité européen qui permet de diviser par deux la facture, si on nous dit effectivement que la facture va être divisée par deux et qu'on est sûr pendant 30 ans d'avoir un débouché, là c'est faisable, on se met 2 ou 3 fermes ensemble, si les fermes sont trop petites, on se met 2 ou 3, ça devient une source de revenus pour les paysans, ce qui était des emmerdes supplémentaires, ça devient une source de revenus pour la ferme, et on crée un emploi à chaque fois qu'on a... Voilà. Il dit, les esprits sont mûrs, simplement il faut qu'on arrête de nous montrer du doigt comme les seuls coupables et qu'on nous donne des financements qui sont pérennes. C'est comme exactement dans l'isolation des bâtiments. Aujourd'hui, les aides changent tous les 6 mois. Il y a 6 mois, il y avait une aide si vous changez vos fenêtres. Maintenant, il y a une aide si vous changez la porte. Et l'année prochaine, on va dire, mais en fait, non, la chaleur monte. Ce qui est important, c'est d'isoler les combles. Donc, les règles du jeu changent tous les 6 mois. C'est insupportable. C'est pareil sur l'agriculture, que ce soit pour aller vers une agriculture biologique ou pour ces histoires de biogaz, les règles changent tous les 6 mois, ça décourage tout le monde, c'est pour ça qu'on veut un traité. Donc où va l'argent? C'est sur l'efficacité énergétique, le bâti, les transports en commun, la politique de recherche et les énergies renouvelables. On pense qu'il faut progressivement sortir du nucléaire, que le nucléaire, moi, mon père est travaillé à EDF, il y a 40 ans, il m'expliquait que le nucléaire était sûr et beaucoup moins cher que les énergies renouvelables. Et c'était vrai il y a 40 ans. Et maintenant, ça n'est plus vrai du tout. Le coût des énergies renouvelables a beaucoup diminué. Le coût, y compris du... Pardon ?
Il reste beaucoup plus élevé que l'énergie nucléaire.
Non, pardon. Si on regarde, le prix des énergies renouvelables a beaucoup baissé, parce qu'il y a des chercheurs qui travaillent, y compris le prix du stockage des énergies a beaucoup diminué, alors que le prix du nucléaire augmente, voire les problèmes de l'EPR, donc y compris à EDF, certains disent qu'il faut une mutation, qu'il faut être capable de changer et de sortir progressivement. Après ça, on est le seul pays du monde où on s'engueule uniquement autant sur la question du nucléaire, alors que ce n'est qu'une partie de l'énergie. En tout cas, pour répondre à votre question, l'argent qu'on aura grâce à ce pacte climat européen n'ira pas dans le nucléaire, il ira dans l'efficacité énergétique. Je répète, il faut diviser par 2 en 20 ans notre besoin d'énergie. Mais c'est faisable, hein, on peut vivre bien dans des maisons mieux isolées, on peut vivre bien en prenant les transports en commun ou avec des voitures moins lourdes. Autrefois, une voiture, il y a 30 ans, une voiture faisait 500 kg. Maintenant, une voiture fait 1500 kg. Donc, on peut très bien avoir, on aura encore besoin de mobilité personnelle, mais avoir utiliser moins souvent sa voiture perso et avoir des voitures qui ne sera peut-être pas sa voiture perso, peut-être qu'on la louera et elle sera beaucoup moins, elle consommera beaucoup moins. Sur la question de la biodiversité, le réchauffement qu'on vit en ce moment va 50 fois plus vite que le dernier réchauffement qu'on a connu. Parce qu'effectivement, il y a toujours eu des oscillations. Je n'ai pas eu le temps de montrer ce matin, mais si on regarde le CO2 depuis 800 000 ans, il y a eu toujours des oscillations. Simplement, jamais elle n'avait dépassé 300 ppm. On mesure le CO2 dans l'atmosphère avec des parties par million. Donc, effectivement, il y a des oscillations qui sont liées au fait que quand on fait le tour du Soleil, ça n'est pas parfaitement constant, que l'axe de rotation oscille un peu. Donc, il y a des mouvements qui font que le CO2 et la température bougeaient. Mais tant que cette évolution de température n'était pas... En gros, le CO2 et le méthane qu'on a foutu dans l'atmosphère depuis 50 ans ont un pouvoir d'accélération très fort. C'est-à-dire que s'il y avait juste le mouvement naturel, on aurait ça de réchauffement et il irait 50 fois plus lentement. Tandis qu'avec le CO2 et le méthane, il y a un effet d'accélération qui fait que le réchauffement va 50 fois plus vite. Et du coup, c'est pour ça que la biodiversité souffre. Parce que les espèces, parce que les problèmes de canicule, de sèche, il y a beaucoup de biodiversité dans les zones humides et que quand il y a des sécheresses à répétition, la biodiversité crève. Et que la capacité de bouger d'une espèce, que ce soit une espèce animale ou une espèce végétale, elle est limitée. Et quand le réchauffement va 50 fois plus vite que la dernière, on va vers une extinction. Je vous conseille le petit bouquin qu'on sort dans une semaine avec Jean-José Lanessel. Il y a 8 pages de Gilles Boeuf sur le lien entre crise de la biodiversité et crise climatique.
Oui, donc, vous parlez de 300 ppm. Par le passé, les taux ont été 10 fois plus élevés. Avec une biodiversité.
Non, pardon, vous remontez alors avant les dinosaures, pardon.
Oui.
Bon, je vous parle de.
Quoi ? Les dinosaures, il y avait une biodiversité extrêmement.
Non, mais ça s'est fait beaucoup plus lentement. Les mutations, d'abord, ça veut dire que dans la biodiversité, l'espèce humaine pourrait disparaître. C'est pas pour rien si le GIEC a eu le prix Nobel de la paix. Hein. Quand l'ONU nous annonce, quand la Banque mondiale annonce 150 millions de réfugiés climatiques d'ici 30 ans, personne ne sait comment, quand on nous dit que l'Afrique va se disloquer, qu'il y aura 80, donc il y aura d'abord une souffrance humaine terrible, et puis quand on nous annonce 90 millions de réfugiés qui devront quitter la terre où ils sont nés en Afrique, personne ne sait comment on gère ça de façon fraternelle, démocratique et non violente. Donc dans la biodiversité, l'espèce humaine a quand même, on y est attaché les uns et les autres, et donc se dire que l'espèce humaine va disparaître ou qu'il y aura des conflits monstrueux, c'est quand même pas anodin. Voilà. Et après ça, sur l'évolution de la biodiversité, si vous regardez depuis des millions d'années, la planète, effectivement, quand une espèce disparaît, quand les dinosaures crèvent, presque, sauf ceux qui vont donner les oiseaux, mais la plupart des dinosaures crèvent et d'autres espèces prennent la place, mais pour l'espèce qui dominait, enfin, il y a des espèces pour lesquelles c'est quand même tragique, et après ça, à part les dinosaures, où ça s'est fait en quelques années, parce qu'il y a un astéroïde qui tombe et les conséquences sont très rapides, sinon toutes les autres mutations sur la biodiversité sont faites de façon très 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 lente. Je répète, il y a déjà eu des périodes de réchauffement ou de refroidissement, mais celles qui étaient liées uniquement au mouvement naturel allaient 50 fois plus lentement, et donc l'adaptation de la biodiversité se faisait sans aucun problème. Donc c'est pour ça que si on ne veut pas avoir un énorme problème pour l'avenir de l'humanité, je répète, dans la plupart d'entre nous, dans 30 ans, on espère être encore là, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on gère, entre guillemets, 150 millions de réfugiés? Voilà, personne ne sait le faire. Et ça se joue, les problèmes seront monstrueux dans 20 ans ou dans 30 ans, mais tous les scientifiques sont d'accord pour dire que ça se joue dans les 5 ans ou les 8 ans qui viennent. Si on n'est pas capable d'enclencher une dynamique très forte, c'est comme si on était sur un toboggan. On a fait tous du toboggan quand on était petit. Parfois, il y a des toboggans avec double pente. Au début, on peut encore freiner et s'arrêter. Et puis, à un moment où la pente accélère, c'est foutu. Donc, tous les scientifiques, maintenant, Claude Allègre, enfin, souvenez-vous de Claude Allègre, puisque tout ça n'était pas grave, que le réchauffement était une hypothèse parmi d'autres. Ben, il y a des centaines de scientifiques qui ont demandé que l'Académie des sciences, en disant que ce n'est pas possible qu'un homme mente comme ça, qui a été en plus ministre de la Recherche. Donc il y a eu 6 mois de débat à la Loyale où tous les scientifiques de France ont pu s'exprimer. Et à la fin, il y a eu un vote à l'unanimité. Ça veut dire que même Claude Allègre a dû avaler son chapeau ce jour-là parce qu'il était à l'Académie des sciences. Et à l'unanimité, l'Académie des sciences a voté un texte pour dire qu'il n'y a plus aucun doute sur la réalité du réchauffement climatique et sur le fait qu'au moins pour 95%, il est dû aux activités humaines. Qui, et encore une fois, le fait que ce soit nous les responsables, c'est une bonne nouvelle, parce que c'est pas une fatalité. Les dinosaures, quand ils se prennent un météorite sur la tronche, ils n'y peuvent rien, les pauvres dinosaures. Même s'ils avaient eu un cerveau plus développé, maintenant, tous les scientifiques pensent que la fin des dinosaures, c'est un météorite de 10 km qui arrive, c'est l'équivalent de 1 milliard de fois Hiroshima, donc les volcans se mettent à cracher bas. Les pauvres dinosaures n'y pouvaient rien, ils n'étaient pas responsables du problème, une fois que le problème s'est déclenché, personne n'y pouvait rien. Tandis que là, le météorite, c'est nous. La bonne nouvelle, c'est que le problème, on sait d'où il vient, c'est nos logements qui sont mal isolés, c'est nos voitures qui consomment trop, c'est le fait qu'il y a 3 millions de camions qui traversent les Pyrénées chaque année alors qu'on pourrait en avoir 10 fois moins. Donc il n'y a aucune fatalité et il n'est pas trop tard, on peut encore s'attaquer à ces différentes sources. Pardon, peut-être qu'on était trop long tous les deux, on va peut-être donner la parole à d'autres.
Mathias de Paris, je voulais savoir s'il y avait une échéance pour vous pour le pacte. Une échéance d'action, une échéance peut-être un seuil à atteindre au niveau des signatures, de l'appel ou quelque chose de ce genre-là.
Alors, si on est stressé, c'est parce qu'on pense qu'il y a une fenêtre, on ne va pas se flinguer si on n'y arrive pas, mais que les chefs d'État et de gouvernement ont dit que l'Europe allait très mal, que l'Europe pouvait mourir. Encore Angela Merkel, il y a 3 semaines, était à Marseille, et elle a redit que l'Europe pouvait se disloquer dans les prochaines années s'il n'y avait pas un nouveau projet, et que c'était le sommet des chefs d'État de décembre, le 13 et le 14 décembre, ou au plus tard, parce qu'ils commencent à dire qu'ils n'y arriveront peut-être pas en décembre, le sommet des chefs d'État du 22 et du 23 mars, qui devait décider. Donc on a, c'est le calendrier qui est sur la table depuis 18 mois, tout le monde s'en fout en France parce que l'Europe, tout le monde s'en fout, mais nous, si on pense qu'une partie des solutions sont au niveau européen, il se trouve qu'il y a eu, en principe, des grands débats citoyens, la plupart des gens ne le savent pas, mais en principe, il y a 24 pays d'Europe où ont été lancés des grands débats citoyens jusqu'au 30 octobre. En principe, c'est début novembre que Mme Merkel, M. Sanchez, M. Macron, M. Rutte doivent faire le bilan de ce qu'ils ont entendu. Donc le calendrier, c'est début novembre, les chefs d'État et du gouvernement doivent dire ce qu'ils ont entendu. Et c'est le 13 et le 14 décembre qu'ils doivent mettre sur la table qu'est-ce qu'on met dans les nouveaux traités. Et ils commencent à dire que s'ils n'arrivent pas à conclure à ce moment-là, ils le feront au mois de mars. Et donc, symboliquement en plus, c'est la fin de la COP 24. C'est-à-dire que la prochaine COP, il y a eu la COP 21 à Paris, la COP 22, et la prochaine COP, elle est en Europe. Donc tous les chefs d'État vont venir en Europe, en Pologne, et on sait très bien qu'avec Trump, il ne peut rien se passer. Donc, a priori, le signal qui va être envoyé le soir, le dernier jour de la COP, c'est le 14 décembre, on peut penser que le signal va être dramatique, et que les politiques européens vont dire « Ah, on aurait bien aimé, mais avec Trump, ce n'est pas possible ». Donc nous, on voudrait leur dire, on n'est pas dupes. On sait très bien qu'avec Trump, il va rien se dire. Vous n'avez aucun accord possible. Mais le même jour, quand la COP va se finir en Pologne, le même jour, vous êtes tous à Bruxelles, les chefs d'État européens, pour dire quel est l'avenir de l'Europe. Et ce n'est pas Trump qui vous empêche de faire une banque européenne du climat. Ce n'est pas Trump qui vous empêche de créer un impôt fédéral pour financer. Donc notre objectif, quand on fait signer des députés, quand on va rencontrer des dirigeants, c'est de dire, les gars, vous ne pourrez pas vous plaindre. Ça fait 20 ans qu'on dit que l'Europe ne va pas bien, qu'elle n'a pas de projet. Madame Merkel, Monsieur Macron, vous avez dit qu'il voulait une refondation de l'Europe et que c'était fin 2018 qu'on décidait. Donc notre but est de foutre la pression. On a encore un écho dans les échos cette semaine. On est en train de préparer des trucs avec plusieurs médias. C'est pour ça qu'on sort ce petit bouquin. C'est pour avoir accès. Donc l'idée de ce petit bouquin, c'est Jean Jouzel, climatologue, Pierrot, économiste, et Anne Hessel, la fille de Stéphane Hessel. Stéphane n'est plus là, mais il était très convaincu par ce projet. Et dire aux citoyens, c'est à nous, les citoyens, de faire bouger les choses. Et on a 6 mois fondamentaux. Si on pense que le sommet du mois de mars doit vraiment conclure, on va tout faire. On ne va pas se flinguer le 25 mars si on n'est pas arrivé, mais ça aurait de la gueule. Et encore une fois, c'est comme au judo. J'ai jamais fait de judo, mais on m'a raconté. On peut profiter de là. C'est comme le jeu de go, j'ai jamais joué. On m'a dit qu'au jeu de go, on encercle son adversaire pour le faire bouger. Et bien là, notre objectif, c'est que Mme Merkel, M. Macron n'aient pas le choix, parce qu'il y a des gens très différents qui vont être d'accord. Et là, je pense qu'ils sont dans un état de fragilité tel. Mme Merkel est très fragile. Personne ne sait combien de temps elle est encore au pouvoir. M. Macron est très fragile aussi. Après, la démission de Nicolas Hulot, il y a beaucoup de gens qui se demandent est-ce qu'il y croit à la question du climat ou est-ce qu'il fait juste des discours. Donc on pense que leur fragilité est une occasion de les obliger à passer à l'action, d'apporter la preuve que le climat les intéresse et qu'ils ne sont pas aux mains des lobbies financiers. Quand même, quand Nicolas Hulot dit « j'étais le seul au gouvernement à m'intéresser au climat et il y a des lobbies qui bloquent », ben, ça prouve qu'il y a un certain malaise. L'autre jour, je sortais chez Jean Jouzel, il y a un gars qui me reconnaît dans la rue et qui me dit « bravo, ce que vous faites, j'ai voté pour M. Macron au premier tour et je me sens trahi ». Et le soir, on était invité avec Jean Jouzel devant des députés En Marche. Donc on a fait notre power, voilà. Il y en a plusieurs qui ont soutenu. Et une fois qu'ils nous racontent, une fois qu'on a fini la séance, je racontais devant des députés cette anecdote. Quelqu'un qui me dit « j'ai voté pour M. Macron et je me sens trahi ». Et il y a 2 députés qui ont dit « eh bien, il n'est pas le seul ». Ça veut dire que... Non, mais ça veut dire qu'on a un levier pour faire bouger les choses, que, y compris parmi des gens qui ont cru qu'il avait refondé l'Europe, qui ont cru qu'il avait pris Nicolas Hulot, c'est qu'il était intéressé par le climat et la biodiversité. Et l'enquête qui était dans le Figaro, je ne dis pas le Figaro tous les jours, mais il y a 2 semaines, un copain m'a dit « regarde, ça vaut le coup ». Là, il y avait 15 items, il y avait 15 sujets qui étaient proposés aux Français, et celui qui arrivait vraiment en tête, avec 67% des gens qui disent « maintenant, ça c'est notre priorité », c'était la question du climat. Il faut que le gouvernement passe à l'action sur la question du climat. C'était 67% des Français qui disaient que c'était prioritaire. Donc notre calendrier, c'est ça, et après ça, on ne va pas sur place. Voilà, on fait tout pour y arriver. Je pense aussi que c'est important de se dire, on essaye quand même. C'est le débat qu'on vient d'avoir sur les questions de stratégie, entre ceux qui disent qu'il faut viser dans 10 ans ou dans 15 ans, et ceux qui disent, ok, on ne va pas se flinguer si on n'y arrive pas, mais si on se dit qu'on n'a plus que 2 ans pour agir, quand il y a une fenêtre, essayons de concentrer nos forces. Voilà. Je répète, en Belgique, toutes les associations, tous les ONG, tous les scientifiques qui interviennent dans le débat public se sont mis d'accord sur 4 revendications. La première, c'est stopper les investissements bruns, qu'il n'y ait plus aucune aide financière pour les investissements dans le charbon et dans le fioul. La deuxième, c'est les 1000 milliards du pacte finance climat. Ils pensent que si on se met d'accord sur 4 propositions, on a plus de chances de gagner la bataille.
Christine Deslandes, la climatologie est une science extrêmement jeune, hein, 40 ans, 50 ans maximum. Donc il y a énormément de données qui manquent dans la démonstration, je pense. Est-ce que vous ne pensez pas que dans l'argumentaire face aux citoyens, le fait de dire ce que le climatologue refuse, Jean Joussa en tête, le fait de dire que la nature est une entité qui respire, qui transpire, qui souffre, qui se rebelle, serait un argument massif pour le citoyen lambda, de manière à lui faire comprendre qu'effectivement, pour aller, puisqu'on est dans l'urgence, pour aller beaucoup plus vite, il faut stopper beaucoup de choses très très vite. Après, les plans climat, les milliards, c'est très bien, mais l'urgence est quand même, vous avez une fenêtre de 15 à 20 ans. Je pense que la fenêtre de 15 à 20 ans, on a beaucoup plus de...
Je n'ai pas dit qu'on avait une fenêtre de 15 à 20 ans, pardon, parce que je parle trop vite. Je n'ai pas dit qu'on avait une fenêtre de 15 à 20 ans. Je dis que la plupart des scientifiques, des climatologues, disent maintenant qu'on n'a que 2 ou 3 ans ou 4 ans, parce qu'il y a un moment où ça va s'accélérer. Je n'ai pas eu le temps d'expliquer ce matin, mais qu'il y a des cercles vicieux. On sait tous qu'une surface blanche, elle renvoie la lumière et la chaleur. C'est-à-dire qu'un truc qui est foncé, il absorbe la chaleur. Donc on voit comment le réchauffement climatique fait fondre la glace, aussi bien dans les Alpes, dans les Pyrénées, le massif de l'Himalaya, le massif de Vignemale, il y a quasiment plus de glaciers, le pôle Nord, le pôle Sud, Arctique, Antarctique fondent, et donc il y a de moins en moins de surface blanche, et donc ça, le réchauffement fait que la glace fond, il y a de moins en moins de surface blanche, et donc on absorbe plus de chaleur. Sur les feux de forêt en Californie, quand il y a plus de temps, je montre comment la Californie, ça fait 60 ans qu'ils mesurent vraiment bien les incendies de forêt, le volume des forêts qui brûlent, en particulier à cause de la sécheresse, a été multiplié par plus de 4 en 50 ans. Et donc, on sait qu'une forêt qui grandit, elle va stocker du CO2, et tandis qu'une forêt qui crame, elle va émettre des tonnes de CO2, et ça devient une surface foncée. Le permafrost, ce sont les terres congelées autour du pôle Nord, donc au nord du Canada, au nord de la Russie, c'est des terres qui étaient congelées, même en été, elles restaient à moins 5, moins 10, et toute la matière organique qui était dedans, c'est comme un grand congélateur, il y avait plein de matière organique, mais qui était congelée, c'était solide et ça ne bougeait pas. Et maintenant, il y a 3 mois dans l'année, ou 4 mois dans l'année, où ça fond, et donc la matière organique pourrit, donc ça sent mauvais, comme un congélateur que vous avez laissé pourrir, et ça provoque des quantités de méthane monstrueuses, et le méthane, il dure moins longtemps que le CO2, mais il a un pouvoir réchauffant qui est 30 fois plus grave. Donc c'est un cercle vicieux. Le réchauffement climatique fait fondre le permafrost provoque du méthane qui accélère le réchauffement, en particulier dans les zones près du pôle Nord, donc ça va accélérer la fonte, vers le pôle Nord, entre guillemets, enfin l'Antarctique, l'Arctique, que le réchauffement est le plus rapide, donc ça fait, la glace fond encore plus vite, donc là, voilà. Donc j'ai jamais dit qu'il y avait, je parle vraiment trop vite, s'ils avaient conclu qu'on avait 15 ans devant nous.
Non, mais sans s'arrêter aux 15-20 ans, après tout, peu importe, mais cet argument massif qui dit « la nature est une entité, elle transpire, elle souffre, tout est lien de cause à effet. Oui. » les abeilles, ce dont vous avez parlé, les feux de forêt, les
réchauffements. On parlait des courants marins qui vont accélérer les choses.
On est d'accord.
Voilà. Donc pourquoi ne pas employer cet argument? Jean-Joseph se refuse à le faire.
Il ne veut pas faire peur.
Je ne sais pas, mais nous, au contraire, on cite, même dans le précédent bouquin, on citait le pape François, pour dire qu'il y a des gens très différents, mais en même temps, des évêques qui nous soutiennent et le Grand Orient de France. Et dans l'encyclique du pape, il revient plusieurs fois sur le fait que tout est lié. Il dit que la clameur de la terre se mêle avec la clameur des gens qui sont dans la pauvreté sociale. Pardon ?
C'est le pape qui l'a
dit. Oui, non, mais je pense qu'il y a une convergence, pour dire que c'est ce système qui. C'était la première question. C'est ce système qu'il faut changer. Un système qui provoque autant de pauvreté, autant de frustration perso, des gens qui vivent bien, mais qui se disent putain, ma vie n'a aucun sens. En même temps que la biodiversité. Donc, quel est le bilan? Il y a plein de choses positives. Hein, l'espérance de vie a augmenté, il y a quand même beaucoup moins d'enfants qui meurent de telle ou telle maladie. Donc, il ne s'agit pas de tout refuser. Mais globalement, on voit bien, on est des millions à se dire ce système n'a plus aucun sens. On est schizophrène. Ce système pousse à la schizophrénie d'un plus grand nombre de gens qui doivent faire un boulot parce qu'il faut bien gagner sa vie, mais ils ne s'y retrouvent pas, ils ne s'épanouissent pas, ça n'a pas de sens. Donc, on voit bien qu'il y a besoin d'un changement assez radical. La question est d'abord comment est-ce qu'on arrive politiquement à faire bouger les choses. Et donc, c'est pour ça, nous, qu'on pense qu'il faut se centrer sur un sujet, mais que ce sujet doit être l'occasion d'avoir une réflexion plus globale, d'avoir une victoire, et ce serait bien quand même si les gens qui portent nos valeurs et nos idées obtenaient une victoire, ce qui déjà changerait la réalité. S'il y avait chaque année 45 milliards qui arrivent, ça changerait tout, hein, pour ceux qui travaillent dans le logement, dans l'agriculture, dans les transports. Si effectivement on avait chaque année 45 milliards qui arrivaient en France pour financer, ça changerait tout. Et peut-être que si on a cette victoire, on se repose pendant un mois, on fait la fête, et puis on passerait à d'autres sujets plus complexes, mais ça aurait prouvé qu'on peut penser les choses autrement. Et que les citoyens ne sont pas stupides, qu'en fait tout le monde peut comprendre les questions monétaires, tout le monde peut être acteur des changements.
Parce que si on veut gagner, pour une fois.
Ça serait bien.
Dans le sens de la convergence des luttes, vendredi soir, je suis allée, comme certainement beaucoup d'entre vous, à l'appel au boulot des coquelicots, jusqu'à 18h30 partout dans toutes les villes de France. Est-ce que vous avez des liens? Parce que c'est vrai que je crois que c'est un peu le même.
C'est tout à fait cohérent, par manque de temps, ça fait juste 3 semaines, je crois qu'ils ont lancé leur campagne.
Oui, il n'y a pas les ballons, mais justement...
Non, mais je pense qu'il faut qu'on fasse la jonction, parce que même si c'est sur des sujets différents, il y a bien une convergence, et les citoyens qui se mettent en mouvement sur le climat ou sur la fin des pesticides sont souvent les mêmes, voilà. Et après ça, je pense qu'il y a aussi besoin, si on veut que les paysans comprennent, si l'agriculteur, il y a aussi besoin de parler à l'intelligence des gens. C'est très bien d'appeler dans un cas à une loi qui interdit les pesticides, dans l'autre cas un traité européen, c'est très important, mais si on n'a pas parlé à l'intelligence des gens, aucune loi ou aucun traité ne va changer la réalité. Voilà, il faut aussi donner la parole à des agriculteurs qui en ont marre de s'intoxiquer et qui disent qu'il est possible de faire autre chose. Et il y a aussi besoin d'un effort de recherche. L'agriculteur qui m'a invité, donc c'est pour ça que dans le plan Marshall qu'on propose, il y a chaque année 10 milliards pour l'effort de recherche, parce qu'il y a besoin d'améliorer le stockage de l'énergie, parce qu'il y a besoin d'inventer des véhicules qui consomment moins, des ordinateurs qui consomment moins, mais qu'en matière agricole, c'est pas évident. Quelqu'un qui a une ferme aujourd'hui, par exemple, j'ai un copain qui est un jeune agriculteur, qui disait, moi j'ai arrêté le labour, donc je fais du semis sans labour, mais j'ai encore besoin de glyphosate. Et j'aimerais qu'on me dise concrètement comment je fais pour, en même temps, ne pas faire des labours, donc laisser le sol revivre, refaire la biodiversité, voilà, et en même temps, comment je fais pour interdire le glyphosate dans un an. Il dit, moi, ça m'irait très bien. C'est pas du tout un gars qui est hostile ou qui est hostile. Il dit juste, j'ai déjà fait un effort, j'ai investi dans un semoir, c'est quand même pas gratuit d'avoir un semoir qui permet de faire le semis sans labour, c'est quand même un changement. Ça fait 2 siècles qu'on nous montre que l'agriculteur est efficace. D'ailleurs, il parlait, et derrière lui, il y avait le concours de labour. Voilà, il y a encore un peu de contradiction, voilà, il en rigolait lui-même. Donc il dit, on est de plus en plus nombreux à comprendre que labourer très profond, ça, avec un gros tracteur, ça n'est en fait pas très utile. Mais je ne sais pas comment éviter ça si on m'interdit la même année le glyphosate. Ça suppose.
Il y a des mecs qui sont en bio ça depuis 50 ans. Quand même.
Mais pardon, ça suppose qu'on arrive à dialoguer. Excusez-moi, ça suppose qu'on arrive à dialoguer. Je n'ai pas dit que c'était impossible. Je dis juste, c'est comme moi, j'ai fait l'agro, après ça, je vais me taire. Mais il y a 25 ans, j'étais étudiant à l'agro, et j'allais, comme j'avais un maître de stage dans la Loire, j'ai passé 3 mois, stage ouvrier, voilà. Et tous les mois, il y avait un gars du marketing de l'Azote qui venait le voir. Et mon maître de stage était un mec très sympa, Pierrot Colomba, mais dès qu'il avait une heure de libre, au lieu de s'occuper de sa femme ou de ses enfants, il allait mettre de l'azote. Je le revois qui prenait des gros sacs et on lui avait expliqué que pour être moderne, pour avoir des bons rendements, il fallait mettre de l'azote. Et tous les mois, il avait un mec sympa qui venait boire un coup avec lui, qui lui montrait des belles photos en disant « ton champ sera beaucoup plus productif si tu mets plus d'azote ». Et il n'y avait personne pour l'aider à réfléchir autrement, à part un jeune con de 21 ans qui lui disait « tu pourrais peut-être… » voilà. Et donc, est-ce qu'on est capable d'aider les agriculteurs qui ont déjà bougé à parler? Ils croulent sous le boulot, ils font 60 heures par semaine. Les autres, t'as toutes les semaines un paysan qui se suicide parce qu'il n'arrive pas à vivre. Donc, il n'a pas forcément le temps pour aller causer avec un mec qui est à 20 km. Donc, est-ce que la puissance publique organise ce débat? Quand on a modernisé l'agriculture il y a 60 ans, je ne sais plus quand c'était, Pisani a payé des milliers de techniciens pour faire le remembrement. On a donné des chèques. En gros, le tracteur, les 2/3 du tracteur étaient payés par la collectivité. Il y avait des prêts à taux zéro du Crédit Agricole. Donc, on a mis les moyens dans la formation, dans les techniciens qui allaient dans les fermes. Ils allaient. Est-ce qu'on se donne les moyens pour accélérer la métamorphose? Edgar Morin, il dit que ce n'est pas une transition, la transition c'est trop doux, il faut peut-être dire que c'est une métamorphose. Est-ce qu'on aide les agriculteurs et est-ce qu'on donne la parole à ceux qui l'ont déjà fait? Et pour tout ça, il y a besoin de sous. Ça ne va là. Quand on a modernisé l'agriculture il y a 60 ans parce qu'on leur a demandé de produire plus pour nourrir tout le monde, on y a mis des milliards. Quand il y a eu le plan Marshall pour aider l'Europe à se reconstruire, il y a eu des dizaines de milliards. Est-ce qu'on est capable d'y mettre les sous?
Revoir la PAC.
Pardon?
Revoir la PAC.
Revoir la PAC, on est d'accord. Mais revoir la PAC en tenant compte des aspects de biodiversité, des aspects de climat et aussi des aspects de revenus. Quand tu vois le prix du lait qui s'effondre et le prix du sucre qui s'effondre.
On n'arrive pas à donner le sucre en
Qui suppose, il n'y a pas besoin de 15 ans, mais ça suppose d'avoir un débat avec les uns et les autres en disant qu'on s'intéresse à leur vie. Le problème du revenu, quand tu as une femme qui se suicide, tout le monde s'en fout, mais l'autre jour, tu as une femme qui a laissé un mot à son mari et à ses enfants et qui allait se pendre dans sa salle de traite parce qu'elle n'arrive plus à vivre. Voilà. Et donc, il faut aussi partir de ce que vivent les gens et la question du climat. Il n'y a plus aucun climato-sceptique chez les agriculteurs, mais pour beaucoup, ce n'est quand même pas leur premier souci. Parce que là, ils voient toutes les semaines dans la presse agricole qu'il y a des suicides et ils se demandent quand est-ce que le prochain.
Et oui, on a dans les années 60, qui a élevé cet enfant à arracher ses pommiers parce qu'on avait une subvention pour arracher les pommiers. Et il a eu entièrement raison parce qu'il avait besoin de bouffer.
C'est pour ça qu'est-ce qu'on tient compte de la vraie vie des gens. En même temps, on ne les enferme pas dans leur rôle. On ne pense pas que tous les agriculteurs sont des productivistes incapables de comprendre. Mais est-ce qu'on leur donne 3 ou 4 ans pour, voilà, avec des aides parce que.
Qu'est-ce qu'on fait de nos gouvernements qui sont au-dessous du lobbying des coopératives des...
Il faut faire un lobby citoyen pendant, encore une fois, je pense qu'il faut, si on est là aujourd'hui, on était des milliers à Alternatiba ce week-end, on était des milliers hier à Mont-Sartou, on était 700 personnes il y a 10 jours, on était invité à Polytechnique, à l'école Polytechnique avec Jean Jouzel, ils n'avaient jamais vu l'amphi aussi plein pour une soirée sur ce. Voilà. Donc je pense qu'on est très nombreux à comprendre que c'est grave, à comprendre que c'est pas foutu. Et à comprendre que si on attend juste que Merkel et Macron bougent, ce sera foutu. Donc est-ce qu'on peut, je répète ce que je disais ce matin, il y a des scientifiques qui nous contactent en disant qu'il y a une vraie souffrance dans les milieux scientifiques en ce moment, parce que ça fait 30 ans qu'ils alertent, qu'ils font des études de plus en plus précises. Ils ont choisi ce métier parce qu'ils avaient plutôt confiance dans la science pendant qu'ils pensaient que la science allait faire le bonheur de l'humanité. Et là, ils se retrouvent face à une catastrophe et ils nous disent « on veut bosser avec vous pour que des scientifiques viennent avec vous, rencontrer les députés, rencontrer les dirigeants ». Ils disent « il faut mettre une grosse dose d'intelligence ». Il y a encore plein de gens qui ne comprennent pas les problèmes climatiques ou les problèmes de biodiversité. Il faut mettre une grosse dose d'intelligence, une grosse dose de bienveillance. On ne pense pas que celui qu'on a en face ou celle qu'on a en face est un mec stupide et incapable de comprendre. Donc beaucoup d'intelligence, beaucoup de bienveillance, et puis on y va pour gagner. On y va en mode commando, on ne va pas les lâcher. Donc on y va avec bienveillance, mais en pensant que c'est grave et que quand même, si dans 3 mois ou dans 4 mois, ils n'ont pas compris, c'est qu'en fait, ils s'en foutent du climat et que peut-être qu'ils ont d'autres priorités. Et donc, il faut le mettre sur la place publique. Nous, notre but, c'est que la question du climat devienne l'affaire Dreyfus dans quelques mois. Voilà, qu'une fois qu'on aura popularisé pourquoi c'est grave, pourquoi il y a des solutions, pourquoi on pourrait créer des emplois. Quand tous les maires ruraux de France nous soutiennent, c'est parce qu'ils voient les problèmes de canicule et de sécheresse, mais aussi parce qu'ils voient leur village qui crève, se disent « purée, ça pourrait créer des emplois ». S'il y avait des financements pour isoler toutes les maisons, s'il y avait tous les bâtiments, si on développait le télétravail pour que tout le monde ne prenne pas sa voiture pour aller dans la ville-centre, mais que chacun... voilà. Donc, une fois qu'on aura réuni tous ces gens qui disent « oui, ce projet, c'est urgent, c'est crédible, ce serait positif, l'Europe peut prendre... même si Trump n'est pas d'accord, l'Europe peut avancer, l'Europe et l'Afrique », il y a un moment, il faudra pousser un coup de gueule en disant « si vous ne reprenez pas ce projet, c'est qu'en fait, vous n'en avez rien à faire du climat et de l'avenir de nos enfants ». Et donc, notre objectif, de façon non-violente, c'est d'en faire la prochaine affaire Dreyfus, et c'est que les gens soient obligés de se positionner. Bon, comme nous, on était nés à l'époque de l'affaire Dreyfus, mais soit tu étais avec Dreyfus, soit tu étais de l'autre côté. Et voilà. Et je pense qu'il faut que sur la question du climat, qu'on arrive à faire le débat central. Sinon, désolé, je suis trop long, sinon le débat tourne uniquement autour des idées des néo-nazis. J'étais à Bruxelles il y a 10 jours, je leur montrais comment, il y a un an et demi, la Une du Times, c'était Emmanuel Macron qui allait refonder l'Europe, et maintenant la Une du Times, c'est Salvini. Combien de réfugiés on fout à la mer. Donc il y a un moment où ça sent pas bon, la question des réfugiés, elle est indémerdable si l'Afrique se disloque. Donc il y a un moment, il faut mettre une dose d'intelligence et de fraternité assez forte, et qu'on ne soit pas en permanence sur la défensive, et je pense qu'il est temps qu'on dise quels sont les débats vraiment fondamentaux pour nos pays. Pardon, il y en a qui n'ont pas encore pris la parole et on...
Oui, juste très vite, on parle de changement climatique, c'est des règlements même plutôt. À mon avis, il faut voir ça un peu différemment. C'est une opportunité aussi, ce changement climatique et l'opportunité climatique. Tout à l'heure, vous avez parlé, et à très juste titre, j'espère en tout cas, on espère tous une société qui soit non-violente, évidemment, fraternelle et en plus, c'est quoi ce mot démocratique, voilà, c'est... Merci, vous avez compris, c'est un peu ironique sur le coup. Et tout à l'heure, une dame a demandé, juste un petit peu encore une fois, comment se réfléchir tous ces fonds. Moi, je pense, plus que je pense, j'en suis convaincu, il faut aussi que ce soit fléché justement vers le débat démocratique. Prenons l'exemple de la simple participation citoyenne actuellement dans les projets, quels qu'ils soient. Ça se limite à une enquête publique, voilà. Avec une publicité pour participer qui est très faible, donc une participation qui est encore plus faible, et on en tient finalement à peu près par contre du tout. bien là une vraie opportunité de faire participer tout le monde. Preuve en est d'ailleurs qu'on est obligé finalement d'organiser des événements magistraux, magiques, formidables comme aujourd'hui pour faire participer tout le monde, et on vient tous là parce qu'on en est convaincus, mais on n'est pas assez. En Europe, on est comme plusieurs centaines de millions, on ne pouvait pas tous être aujourd'hui monter des chaises. Mais c'est un peu ça l'ambition tout de même. Et même si je vous remercie mille fois d'organiser cette mobilisation, de prendre votre bâton de pèlerin en fait pour mobiliser, il serait bon également qu'on profite, je pense, de l'opportunité climatique pour démocratie 2.0, pour refaire un peu ça, redonner la parole aux gens. On le voit, je vais faire beaucoup maintenant, je vous promets. On le voit en Europe avec la montée des nationalismes. On ne donne pas la parole aux gens, on ne donne pas forcément l'information, du coup on a peur, comme dirait Margaret Thatcher, back to basics, c'est-à-dire tout pour ma gueule, ben, je pense qu'à moi, je vote nationaliste. Pas moi, évidemment, je suis pas con. Voilà, on en arrive à ça. On a un besoin de renouveau de démocratie qui passe. Ben, c'est les Grecs qui ont inventé ça, c'était pas si bête que ça. Hein. Pardonner la parole à chacun. Voilà, ce temps n'existe plus. Voilà, on le voit dans les enquêtes publiques, on le voit surtout. Et ça me. Je termine sur ça, même si c'est assez paradoxal, que j'aime beaucoup les théories du collapse, etc. Enfin, je les aime entre guillemets, soyons clairs. L'éducation. J'espère qu'on fléchera beaucoup aussi dans l'éducation. Puisque la démocratie, c'est pas quelque chose qui s'écrit sur un petit bout de papier, c'est quelque chose qui se vit, qui se transpire. Voilà. Juste une petite réflexion.
Non, mais pour dire que c'est un vrai débat, parce que certains commencent à dire qu'on ne pourra pas sauver la planète avec un système démocratique et qu'il faudra des mesures très fortes, voilà. Et nous, on pense au contraire que la question du climat est l'occasion d'un sursaut démocratique, que quand il y a des étudiants qui se forment pour être porte-parole, en disant le Pierrot, il parle trop vite, mais ce qu'il dit, c'est quand même intéressant, et avec son PowerPoint, c'est pas très compliqué d'animer un débat. Donc il y a des gens qui se forment, des gens normaux, qui sont ni climatologues connus à la télé, qui se forment pour être porte-parole et pour faire des débats. C'est des étudiants qui disent qu'ils vont retourner dans le lycée d'où ils étaient pour proposer des débats à tous les lycéens. Ça a de la gueule, qui vont faire des vidéos, y compris en parler à tous leurs amis ou leur famille. Sur la question de la démocratie, on reprend l'idée d'Habermas, pour dire qui est un grand philosophe allemand, qui dit que le prochain traité devrait être approuvé par référendum dans tous les pays européens le même jour, en disant l'Europe va crever si elle n'a pas un nouveau projet, et l'Europe va crever si elle a peur des peuples et des citoyens. Donc il y a un moment, il faut qu'on redonne, nous, le lien démocratique en Europe, et voilà un sujet, la question du climat, qui pourrait permettre, ça aurait de la gueule, si le même jour ou la même semaine, il y en a qui votent le jeudi, il y en a qui votent le samedi, il y en a qui votent le dimanche, mais imaginez si effectivement il y a une décision des chefs d'État au mois de mars, et qu'à la fin de l'année prochaine, la même semaine, qu'on soit en Espagne, en Italie, au Portugal, au Danemark ou en Pologne, on serait des millions dans tous les cafés, dans toutes les universités, dans toutes les familles d'Europe, on parlerait du climat. Donc on aura un vrai débat sur la biodiversité, le climat, sur qu'est-ce qu'on fait de cet argent, et ça aurait de l'allure. Et on propose que ce soit un référendum à choix multiples, et que dans chaque pays, la même semaine, il y a un référendum pour approuver le même traité, qui va créer une banque du climat et un budget climat, mais qu'on a que de même, le jour où les gens vont les voter, on approuverait les nouvelles règles du jeu dans le pays. En France, dans 20 ans, tous les bâtiments doivent être isolés. En France, dans 15 ans, l'agriculture, voilà. En France, voilà. Et que, y compris des ONG pourraient proposer des choses qui sont soumises à un référendum. Que dès qu'une association, une ONG recueillerait 150 000 signatures sur une idée, elle serait soumise au référendum. Donc on pense que faire campagne aujourd'hui pour obtenir ce traité, pour faire pression sur les chefs d'État, c'est l'occasion déjà de faire de la démocratie, voilà, dans les mois qui viennent. Si un traité soit adopté de façon vraiment démocratique, c'est l'occasion d'enrichir. Et après ça, derrière, sur le contrôle de l'argent, dans chaque pays, on dit que de même que dans le premier plan Marshall, il y avait 146 projets. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des milliards qui sont arrivés. Il y a eu 146 projets qui étaient estampillés, qui avaient droit à des financements au plan Marshall. Et nous, on dit que dans chaque pays, le Parlement, avec des ONG, avec des citoyens et des experts, doit décider tous les 3 mois où va cet argent. Il y a des projets qu'on connaît, l'isolation des bâtiments, voilà, il faut isoler tous les bâtiments, il y a des transports en commun, mais tous les 3 mois, il y aura peut-être une idée nouvelle, une PME qui a besoin d'améliorer ses fonds propres. Donc, on propose que la décision sur comment est utilisé cet argent et le contrôle, vérifier que tout le monde ce soit des députés élus par le peuple, mais pas seulement des députés, qui aient une co-décision avec des ONG et des citoyens.
Changer le système, pas le climat.
Par exemple, c'est un bon slogan, j'ai en parlé aux copains d'Alternativa. Je pense qu'ils vont être d'accord, j'en connais quelques-uns, ils vont être d'accord. Oui.
Vous dites qu'il faut alerter sur le climat. Et dans ce cas, pourquoi est-ce que Jean Gozel parle d'un plateau en termes de montée de température depuis une vingtaine d'années même en disant que finalement, si ce plateau se poursuivait, ça remettrait en cause tout ce que croit le GIEC et.
Montrez-moi. Les climato-sceptiques ont la parole, ils font qu'à Mayotte, mais montrez-moi où est le plateau en évolution des températures.
En fait, la température augmente depuis 300 ans.
Non, pardon, excusez-moi, on il n'y a aucun plateau, moi, excusez-moi, c'est trop sérieux. Il n'y a aucun. Mais si, ça montre que, y compris dans des instances comme ici, il y a encore besoin de débat, vous voyez qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. Il y a des choses qu'on peut mettre en doute il y a 30 ans ou 50 ans, et aujourd'hui, il n'y a plus aucun doute, il n'y a aucun plateau. Voilà l'évolution, monsieur, des températures depuis 50 ans, depuis 1880.
Je ne comprends pas qu'il n'y a pas d'augmentation de
température. Il n'y a aucun plateau, et Jean-Joseph ne dit jamais ça, monsieur. Pardon. Non, je me pose avec Jean-Joseph depuis 5 ans, deux fois par semaine, on est encore envoyé lire un article en temps. Jean-Joseph n'a jamais dit qu'il y avait un plateau. Il y a eu un moment où il y a une petite accalmie, parce qu'il y a des oscillations. Il y a des moments où les oscillations naturelles sont contrebalancées par les mouvements dus à l'activité humaine, mais il n'y a hélas aucune accalmie, c'est plutôt une accélération. L'évolution du CO2 dans l'atmosphère, qu'on mesure depuis 60 ans par Mauna Loa aux États-Unis, il avait fallu 12 ans, donc c'est mesuré en ppm, hein, c'est parti par million, il avait fallu 12 ans, et on regarde à chaque fois combien il faut de temps pour faire une marche de 10 ppm, combien il faut de temps pour passer de 300 à 310 ppm, combien de temps de 310 à 320, bon, et ça c'est étudié très précisément, il n'y a aucun doute là-dessus depuis 60 ans, c'est l'armée américaine, comme quoi tout le monde n'est pas extrême, c'est l'armée américaine et des scientifiques qui ont installé un laboratoire à 3300 mètres, pour être loin de toutes les autoroutes, toutes les pollutions, toutes les zones industrielles, et tous les jours, toutes les semaines, ils mesurent le CO2 dans l'atmosphère depuis 60 ans. Et personne ne conteste ça. Et donc, pour franchir la première marche de 10 ppm en plus, il a fallu 12 ans, puis la marche suivante, il a fallu 8 ans, et là, la dernière marche entre 400 et 410 ppm, il a fallu seulement 4 ans. Donc ça veut dire que non seulement il n'y a aucun doute sur l'accélération du il n'y a aucun doute sur l'évolution des températures, il n'y a aucune accalmie dans les températures, et de même sur les oscillations, je retrouve par hasard la courbe, quand vous parliez des oscillations, voilà, c'est la courbe du CO2 depuis 800 000 ans, je ne sais pas si vous la voyez, donc il y avait des oscillations, mais jamais on avait dépassé les 300 ppm. Ça veut dire que ce qu'on fait depuis 50 ans, donc en 50 ans on est passé de 300 ppm à 410 ppm, ce qu'on a produit tous depuis 50 ans a été capable de déséquilibrer un système qui était oscillé, mais qui était équilibré depuis 800 000 ans. Donc il n'y a hélas plus aucun doute sur la gravité de ce qu'on fait, et en même temps c'est encore, non pas totalement réversible, parce qu'une fois que les glaces ont fondu, elles ont fondu, une fois qu'il y a des espèces qui ont crevé, il y a des espèces qui ont crevé, mais il n'est pas trop tard pour éviter le normalement. Je ne dis pas que Jean-Joseph, pardon, on ne peut pas dire la
vie. Non, excusez-moi, je ne dis pas le réchauffement du tout. Hein. Ce que je dis simplement, c'est qu'on se pose la question. Moi, j'entends Jean-Joseph à la télévision le dire. En fait, l'augmentation du taux de CO2, elle augmente de plus en plus fortement. Il n'y en a jamais eu autant qui a été dégagé que depuis ces dernières années. Ça s'est réchauffé d'un degré sur les 100 dernières années. Et sur les 20 dernières années, étant donné qu'il y a plus de CO2, ça devrait être exponentiel, avec une montée de température plus importante, puis finalement. Depuis 20 ans et moins. L'augmentation est moins, c'est ce que les gens disent.
Alors, excusez-moi, c'est faux. Justement, on a décidé de lancer cette campagne avec Jean il y a 2 ans. On était avec Miguel Moratinos, avec Anne-Essel et quelques autres, on dînait. Et ça fait déjà 5 ans, déjà au premier Alternativa, on parlait pour porter ce projet, on voulait lancer une campagne avec Alternativa. Et là, on s'est dit qu'il fallait y aller. Les gens m'ont dit OK, mais fin 2017, ce sera dit, puisqu'on a lancé le premier bouquin il y a un an, les gens disaient ce sera compliqué. Parce que 2016 avait été une année très chaude, avait été une année El Niño, donc à chaque fois qu'il y a une année El Niño, c'est très chaud, mais en principe, l'année suivante était très fraîche, il y avait très peu d'événements climatiques extrêmes. Donc Jean nous disait, en 2017, on aura du mal à parler du climat, en 2017 et 2018, ce seront des années très fraîches, il y aura très peu d'événements médiatisables, donc on aura du mal. Il a dit, ok, j'y crois, il faut lancer le débat, mais voilà, or 2017 et 2018, sont les années les plus chaudes qu'on a jamais vues, hors l'année 2017 qui était à Lyon. Donc, monsieur, je suis désolé, mais il n'y a aucun
dire. Je ne dis pas que ça ne se réchauffe pas.
Non, mais c'est juste que ça ne se réchauffe pas. Je transpire, je reste pour lire, nous sommes journalistes. Mais excusez-moi, mais ce n'est pas qu'il y a une accalmie, c'est que les années 2017 et 2018 sont troublantes. Quand j'ai dîné chez Jean, l'an dernier, je n'en fais plus pendant un bon moment, parce qu'il vous montre chiffre à la pluie, encore il est prudent parce qu'il veut en rester à ce que dit le GIEC, et le GIEC nous dit que des choses sont vérifiées depuis 20 ans, c'est-à-dire que ce qui se passe depuis 3 ou 4 ans, le GIEC le sous-estime. De même, la glace de l'Antarctique, c'est-à-dire le pôle sud, jusqu'à présent, on dit que ça tenait bon. Et donc c'était un des trucs qui rassurait les gens, c'est que l'Antarctique tenait bon. Et maintenant, depuis 20 ans, l'Antarctique commence à fondre, et depuis 5 ans, l'Antarctique fond beaucoup plus vite que prévu, ce qui accélère les problèmes, et ce qui accélère à monter des... Voilà. Donc, monsieur, on ne va pas y passer la soirée, mais je ne vois pas où il a calmé, je ne vois pas où il a calmé, et enfin, je le reviens calme moi-même, mais il y a beaucoup plus calmé, dans nos émissions de CO2. Alors, un des jeux, si Nicolas Hulot, je suis trop long, si Nicolas Hulot a démissionné, il y aura plusieurs raisons. Il y a le fait qu'il n'avait pas de budget, qu'il voyait bien qu'Emmanuel Macron le traitait bien, le chouchoutait humainement, Macron le traitait bien, il s'en foutait sur le fond. Le mois d'avril, Emmanuel Macron avait promis à deux ministres, dont Hulot, de nous recevoir, de s'intéresser au projet du climat, et qu'il n'a toujours pas fait. Mais dans sa quand il est sur France Inter, à trois reprises, Nicolas Hulot dit que la Terre va devenir une étude. C'est pas par hasard si on emploie ce mot, c'est parce qu'encore cet été, des études qui ont montré qu'une étude, c'est quand l'air est trop chaud et trop humide. Le corps humain, quand vous avez chaud, et je suis la preuve là, on transpire, on évapore. Et ça marche bien s'il est à l'extérieur et chaud mais sec. Et donc, vous pouvez être à 40 degrés, mais ce n'est pas grave, votre cerveau, votre foie reste à 37, les organes nobles ne montent pas en température parce que vous évaporez. Ça marche bien si l'extérieur est sec. Mais si l'air extérieur est en même temps trop chaud et trop humide, ça ne fonctionne plus. Donc si l'air est comme une étude, ça ne marche plus. Et donc le MIT, qui est un grand laboratoire des États-Unis, fait chaque année des études de plus en plus précises et dit, il y a deux études qui ont sorti cette été qui sont vraiment flippantes, ils disent qu'une bonne partie de la péninsule arabe et de la Chine, avec un espace de 400 millions d'habitants, excusez du peu, un espace de 400 millions d'habitants, que régulièrement, dans 40 ou 50 ans, ce sera des études tous les ans, tous les deux ans là. Et donc ça veut dire qu'il y a 400 millions de personnes qui ne pourront plus, qui vont rester cloîtrées dans leur appartement en mettant la clim au maximum, mais la clim, on ne sait pas comment on fait, si les centrales nucléaires ne s'appuient, voilà. Donc, et si vous sortez, en 6 heures, le corps humain, vous pétez les pompes. Les pompiers ne peuvent rien faire. Si quand on est quand même trop chaud et trop humide, si vous sortez de chez vous et si vous allez vous promener dans la rue, vous êtes très fameux. Voilà. Donc, ce n'est pas pour rien si Nicolas Hulot a parlé à plusieurs pays du fait que la planète se transforme en une étude. C'est qu'il y a des conséquences qu'on saura gérer. Alors, si on gère mieux l'eau, si on améliore le consommation, il y a des conséquences qu'on saura gérer et quelques conséquences qui seront dues d'une catastrophe totale qui vont amener à des mouvements migratoires monstrueux. Et quand il y a 400 millions d'habitants, 400 millions de personnes, c'est la France, je suis fatigué, qui doivent quitter leur territoire, personne ne sait comment les accueille à côté de façon pacifique. C'est ce qui prend, c'est vraiment fatigué. La dernière fois qu'il y a eu un réchauffement, puisque la dernière fois qu'il y a eu un réchauffement, je répète, il y avait 50 fois plus lentement. 50 fois plus longtemps, parce qu'il était dû uniquement à nos oscillations naturelles autour du Soleil et ce genre de choses, et on estime qu'il y avait 25 millions d'hominidés, c'est-à-dire 25 millions de mammifères qui ressemblaient beaucoup à ceux que nous sommes aujourd'hui. Donc ça allait lentement, on avait le temps, il y avait plein de terres vierges pour les accueillir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le réchauffement va 50 fois plus vite, et la planète est plus pleine, et l'Europe a accueilli 1,5 million de réfugiés, et on a déjà des mouvements néo-nazis qui redémarrent dans quelques pays. Donc voilà, donc, désolé de m'énerver, mais dire que Jean Jouzel explique qu'il y a eu un plateau, non, ça fait 6 ans que je bosse avec Jean Jouzel, je ne l'ai jamais entendu dire qu'il y a eu un plateau. Est-ce que, je ne sais pas quelle heure, il reste combien de temps, c'est fini ?
Il est moins de 10.
Bon, mais donc le brainstorming peut être court. C'est-à-dire qu'on a épuisé notre parole déjà ?
Oui.
Bon, désolé. Donc vous avez tous l'adresse du site ?
Oui.
Non, mais climat-2020.eu ou pac-climat.eu. Il y a deux façons d'y arriver. Climat, voilà. Mais vraiment, voilà, vous l'avez compris, il faut qu'on soit le plus nombreux possible. Dans la diversité de nos réseaux, on ne vous demande pas, c'est pas une secte, on ne vous demande pas d'être d'accord à 100%. On vous demande si vous pensez que c'est le bon moment et qu'il est fondamental de mettre la finance au niveau européen. Engagez-vous. Merci et c'est eux qui veulent. Pour 8 euros, vous pouvez l'offrir. Donc, la même collection que le indiquez-vous. Suite de la fin de ces pas d'essai, on dit aux gens comment.